beaucoup plus lénifiante dont nous disposions jusqu'à présent et qui ne faisait jamais état de maltraitance physique, mais entre guillemets simplement de torture psychologique pendant les entretiens, pendant les interrogatoires. Donc c'est cela le fait nouveau. Il concerne une période révolue, mais naturellement ces éléments sont extrêmement graves, d'une part pour ce qu'a vécu Fariba Adelra, et d'autre part sur les parts d'ombre qu'elle révèle, et nous constatons que nous sommes loin d'être au courant.
Radio G 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous lire des extraits de « Journal d'un corps » de Daniel Pénac.
Daniel Pénac met en page le journal qu'un narrateur commence à l'âge de 13 ans. Ce n'est pas un traité de physiologie, mais le récit de son jardin secret, qui est à bien des égards notre territoire le plus commun. C'est le journal d'un homme que l'on découvre à divers stades de sa vie. Un voyage à travers l'évolution et les changements de son corps jusqu'à sa mort à 87 ans. Même éduqué, le corps réserve heureusement bien des surprises.
Juillet 1938, j'ai 14 ans. Le saut dans le grain, chez Pélucha, c'est autre chose. Jusqu'à la semaine dernière, je n'ai pas osé, toujours à cause du vertige. Marianne se moquait de moi. Tijot le fait bien, lui, à 5 ans, Robert. Tu l'aimes pas la plage ? Robert appelle ça aller à la plage, à cause du blé qui est blond comme le sable, à moins que ce ne soit le contraire. On se déshabille avant de grimper à l'échelle, pour ne pas rapporter de grains dans nos vêtements. Sauter dans le blé est interdit. Le grain dans le vêtement est une preuve accablante. Si Manès ou Pélucha trouvent un seul grain sur nous, « il nous tanne le cul », dit Robert. Le faîtage est à 7 mètres, la poutre maîtresse à 5, et le grain monte jusqu'à 2. On grimpe par l'échelle, on court le long de la poutre et on saute. Un saut de 3 mètres dans le vide, sans crier surtout. S'ils nous entendent et qu'ils nous chopent à sauter à poil dans leur blé, alors là, ils nous tannent les deux culs. Toujours Robert. Jusqu'à la semaine dernière, impossible de courir sur la poutre, même de m'y tenir debout. Là où Tigeau gambade avant de plonger, je ne pouvais avancer qu'à quatre pattes et sauter en fermant les yeux. La première fois, c'est Marianne qui m'a poussé. La frayeur m'a fait crier. Nous sommes restés cachés dans le blé sans bouger pendant au moins 5 minutes. Robert immobilisant et bâillonnant Tigeau qui voulait ressauter tout de suite. Mais personne n'a entendu mon cri. J'ai dû sauter seul les 3 fois suivantes. C'était le gage. Sans crier. Et sur la poutre, tiens-toi debout. Et garde les yeux ouverts en sautant. Un saut de 3 mètres. La remontée des boyaux dans la gorge. Le trou crissant que fait ton corps dans le grain. La chaleur du blé fraîchement battu sur ta peau nue. Cette caresse tellement vivante. Merveilleux. À présent, je le fais couramment. Souvent seul avec Tigeau. Pourtant, je sens que j'ai toujours le vertige. On peut maîtriser le vertige. Il n'est jamais vaincu.
Jours. C'est chez Hervé, dans une soirée dansante, que le narrateur rencontre la splendide Violaine, qui n'arrivera pas à le faire danser. Bon au ballon prisonnier, mais mauvais danseur, il ne s'attend pas à la revoir. Il est vrai que tu y excellais, ce n'est pas le genre d'atout qui mettra cette fille dans ton lit. Pourtant, elle est venue, le soir même. Et ce fut pire que la danse. J'étais dans ma chambre, chez Hervé, tard dans la nuit, maison finalement endormie, assis à cette espèce de petite table échiquier, occupé à écrire le récit pathétique de la danse, quand la porte s'est ouverte dans mon dos, si doucement que je l'ai juste entendu se refermer, ce qui m'a fait me retourner, et je l'ai vue, dans sa chemise de nuit, un organdi blanc ou un tissu de ce genre, qui laissait une épaule nue à la façon des tuniques grecques, une fine bretelle nouée sur l'autre épaule, un petit nœud dont les boucles semblaient des ailes de papillon. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne souriait pas, elle posait sur moi un regard lourd. J'étais tout à fait incapable de parler moi-même. Les épaules rondes, les bras longs, pâles et fuselés, les mains pendant le long des cuisses, les pieds nus, le souffle court, les seins hauts et pleins, la chemise de nuit suspendue à leur pointe tombant droit, ce qui crée un vide entre la nudité et le tissu. Mes yeux ont cherché le dessin de ses hanches, son ventre, ses cuisses, la forme générale de son corps. Mais la petite lampe à côté de moi n'était pas source de transparence. Il aurait fallu qu'elle fût derrière elle pour dessiner sa silhouette. Je n'ai d'abord pensé qu'à cela. La mauvaise position de la lampe qui rendait mate cette promesse de transparence. C'eût été différent si la lampe avait été placée derrière elle. Nous étions tous les deux immobiles. Je ne m'étais même pas levé. Je n'ai pas fait le moindre geste vers elle, qui restait debout, la porte refermée dans son dos, et moi assis, tourné aux 3/4, une main restée sur la table qui referme le cahier en tâtonnant. L'encre va sécher sur la plume de mon stylo, me suis-je dit. J'ai pensé à cela, oui. que je ne pouvais tout de même pas refermer ce stylo tout en cherchant à deviner la silhouette de Violaine sous le tissu opaque dont la blancheur m'éblouissait à présent. Alors j'ai vu son bras gauche remonter le long de sa poitrine, ses doigts se déplier en arrivant au niveau de son épaule, son pouce et son index saisir l'extrémité de la petite bretelle qu'elle a tirée doucement, défaisant ainsi le nœud, et la chemise est tombée à ses pieds, de tout le poids du tissu, dévoilant son corps nu. Et je ne pense pas que je verrai jamais plus joli corps de femme, livré soudain dans la lumière dorée de cette lampe. Mon Dieu, quelle beauté, me suis-je répété. Si la lumière s'était éteinte pour toujours, je serais mort avec le souvenir de cette beauté. Je crois bien avoir failli crier, sans pourtant me lever, absolument paralysé par la surprise et le ravissement. Quelle beauté, quelle perfection! Et je crois avoir éprouvé un sentiment de gratitude. Personne jamais ne m'avait fait pareil cadeau. J'ai pensé cela aussi. Mais sans bouger d'un pouce, c'est elle qui a bougé. Elle est allée s'allonger sur le lit, elle ne m'a pas fait signe de venir, elle ne m'a pas tendu les bras, elle n'a pas parlé, elle n'a pas souri. Elle attendait que je vienne, ce que j'ai fait, finalement, venir à elle. Et je me suis tenu debout à son chevet. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. « Il faut que tu te déshabilles, me suis-je dit. C'est ton tour, ce que j'ai fait. » Maladroitement, discrètement, sans aucune générosité, en lui tournant le dos, en m'asseyant sur le bord du lit et en me cachant, plus qu'en me livrant, et quand ce fut fait, je me suis glissé à côté d'elle et rien ne s'est passé. Je ne l'ai ni caressé ni embrassé, parce que en moi quelque chose était mort, ou ne voulait pas naître, ce qui revient absolument au même, parce que mon cœur envoyait mon sang partout, sauf là où il était attendu. Mon sang incendiait mes joues, giclé sur les parois de mon crâne, cogné, affolé à mes tempes, mais pas une goutte entre mes jambes, rien entre mes jambes. Je ne me disais même pas « tu ne bandes pas ». Je ne sentais rien entre ses jambes. Je ne songeais qu'à cela, cette inexistence entre mes jambes. Il faut dire qu'elle ne m'a pas aidé. Pas un mot, elle, non plus. Pas un mouvement. Jusqu'à ce qu'elle se lève, soudainement, et que j'entende la porte se refermer derrière elle.
Octobre 1952, 29 ans. Mon anniversaire, je m'en souviendrai. Brandissant Bruno pour le présenter aux invités comme la huitième merveille du monde, je suis tombé avec lui dans l'escalier. Je suis tombé en avant et j'ai roulé jusqu'au bas des marches. 11 exactement. Instinctivement, je me suis refermé sur Bruno. Tout en roulant, j'ai maintenu sa tête contre ma poitrine. Je l'ai protégé de mes coudes, de mes biceps, de mon dos. J'étais une coque refermée sur mon fils. Et nous roulions jusqu'au bas des marches dans un grand concert de hurlements. Tous les invités étaient arrivés. J'ai senti le tranchant des marches contre le dos de mes mains, les os de mon bassin, mes rotules, mes chevilles, ma colonne vertébrale, mes épaules. Mais je savais, tout en roulant, la poitrine creusée et l'estomac rentré, que Bruno était parfaitement en sécurité contre moi. Je me suis instinctivement métamorphosé en amortisseur humain. Bruno n'aurait pas couru plus de risques enveloppé dans un matelas. Je n'ai pourtant jamais fait de judo, pas appris à tomber. Manifestation spectaculaire de l'instinct paternel.
Octobre 1960, 36 ans. Au square, Bruno et un garçonnet de son âge sacrifient au rituel immémorial de comparer leurs biceps. Deux petits bras pliés à angle droit, deux poings fermés, deux biceps bandés, deux visages théâtralement crispés par l'effort. Nous passons notre vie à comparer nos corps. Mais une fois sorti de l'enfance, de façon furtive, presque honteuse. À 15 ans, sur la plage, j'évaluais les biceps et les abdominaux des garçons de mon âge. À 18 ou 20 ans, ce renflement sous le maillot de bain. À 30, à 40, ce sont leurs cheveux que les hommes comparent. Malheur aux chauves. À 50 ans, le ventre, ne pas en prendre. À 60 ans, les dents. Ne pas en perdre. Et maintenant, dans ces assemblées de vieux crocodiles que sont nos autorités de tutelle, le dos, les pas, la façon d'essuyer sa bouche et de se lever, d'enfiler son manteau. L'âge, en somme, tout simplement l'âge. Oh, un tel fait beaucoup plus vieux que moi, ne trouvez-vous pas ?
39 ans. Nuit blanche pour cause d'angoisse. Gorge serrée, poitrine pesante. Sourde vibration des nerfs, levé tôt. Suis allé au boulot à pied, en faisant un immense détour. République, Grand Boulevard, Opéra, Concorde, Jardin des Tuileries, Louvre, Pont des Arts. Des pas purement mécaniques d'abord, le poids de mon corps tombant sur chaque pied, d'effort en effort, la créature de Frankenstein en vadrouille, l'œil fixe et le souffle bref, jusqu'à ce que ça se dissolve peu à peu, que les mâchoires et les poings se desserrent, que les membres s'assouplissent, que la marche se découple, que les poumons se remplissent, que l'esprit se dégage du corps, que le costume habille le bonhomme social et que le citoyen directeur fasse son entrée légendairement galvanisante au bureau. Bonjour tout le monde, comment va le moral des troupes ?
Le texte suivant évoque Violette, employée de maison qui s'est toujours occupée de lui, enfant, avec beaucoup d'affection. 12 août 1968, 40 ans, 10 mois, 2 jours. Ce matin, je m'avance vers la mer, après avoir refusé les affreuses sandales de plastique translucide que Mona me propose. Je me tiens, me maintiens, le plus droit possible sur les galets. Un peu raide peut-être, un rien cambré, feignant de la marche rêveuse du type qui jouit de l'horizon avant de se décider à plonger. La plante de mes pieds, en accord avec mes chevilles, teste chaque dos de galet, consistance, température, surface, rotondité, transmet ses renseignements au genou qui informe aussitôt les hanches et ça marche. Je marche. Jusqu'à ce que la somme des informations à transmettre devienne telle que mon cerveau s'y perd et que le caillou inattendu, plus pointu que les autres, lui commande d'envoyer mes bras à la recherche de l'équilibre. Et c'est ainsi, mes bras moulinant l'air, que je me trouve réincarné en Violette. Je ne pense pas à Violette. Je n'évoque pas Violette. Je ne me souviens pas de Violette. Je suis Violette, oscillant sur les galets lorsque nous allions pêcher. Je suis le vieux corps flageolant de Violette. Violette marche en moi. Pas avec moi. En moi. Une absolue possession. Délicieusement consentie. Je suis Violette en sa démarche branlante vers le pliant que je reculais toujours de 2 ou 3 mètres pour la taquiner. À mon âge, toi non plus, tu ne tiendras plus debout sur les galets, disait-elle. Mais moi, je pourrais toujours tenir un poisson vivant dans la main. Sauf que quand tu auras mon âge, je serai morte. Oh, Violette, tu es là. Tu es là.
Octobre 1979, 56 ans, anniversaire. À 20 ans, m'étirer, c'était m'envoler. Ce matin, j'ai cru me crucifier en m'étirant. Nécessité de me dérouiller. La prédiction de ce prof de gym, d'Émile, d'Imel, qui en seconde nous affirmait que nous serions rouillés avant l'âge si nous ne faisions pas d'exercice quotidien. Peut-être. En attendant, quand je vois dans quel état sont mes amis sportifs qui m'étourdissaient de leur performance, Étienne, aujourd'hui perclus de rhumatisme, ses doigts et ses clavicules plusieurs fois cassés, ses épaules de rugbyman ravagées par la capsulite. J'estime que j'ai bien fait de résister à la religion du record et au dictat de l'entraînement permanent, cet onanisme. J'ai toujours détesté le sport comme religion du corps. La boxe m'était une sorte de danse ludique, un art de l'esquive, et puis je la pratiquais surtout en solitaire. C'était contre un sac que je tapais le plus souvent. Et au tennis, contre un mur. Quant aux abdominaux et aux pompes, ils étaient mes exercices d'incarnation. Ils offraient un corps au garçon translucide qui avait été le fantôme de son père. Gagner un match de ballon prisonnier, épuiser un adversaire teigneux sur le ring, ridiculiser un bêcheur au tennis, grimper à vélo une côte verticale, c'était venger papa, mais en le tenant à distance, dans la tribune, assis à la place d'honneur. Le sport n'a jamais représenté pour moi une nécessité physique. J'en ai d'ailleurs cessé toute pratique le jour où j'ai rencontré Mona.
« 62 ans. Ce matin, j'ai oublié le code de ma carte bleue. Pas seulement le code, mais le moyen mnémotechnique concocté pour le retenir. Et le parcours de mes doigts sur le clavier. Frappé de stupeur devant le distributeur. Complètement ébranlé. Nouvelle tentative ? Quelle tentative ? Aucun souvenir. Pas la moindre piste. Comme si ce code n'avait jamais existé. Pire, comme s'il existait ailleurs, en un lieu auquel je n'ai pas accès. Panique, mêlée de fureur. Je demeure sur le trottoir, devant la machine, à ne savoir que faire. Derrière, on s'impatiente. L'appareil me rend la carte. Je dis, il est détraqué, je crois. La honte d'avoir prononcé cette phrase, de m'y être cru obligé. Je me dégage en rasant le mur. J'ai tout perdu, mémoire, dignité, self-control, maturité, je suis complètement dépossédé. Ce code, c'était moi. Je renvoie la voiture et décide d'aller au bureau à pied. La fureur et la honte me font marcher vite. Je traverse au vert, klaxonne, impossible de me raisonner, impossible de ramener l'événement à sa juste proportion. Une saute de courant, une conséquence à long terme. À l'heure où j'écris ces lignes, le code est revenu de lui-même prendre sa place dans ma mémoire. Les mots me manquent pour décrire l'état de terreur où m'a flanqué ce bref oubli.
Février 1991, 67 ans. Quand je suis couché sur le côté, dans certaines positions qu'avec l'expérience je trouve sans difficulté, je sens mon cœur battre au plus profond de mon oreille, sur laquelle ma tête pèse de tout son poids. Un doux chuintement régulier. Un piston rassurant dont la compagnie me berce depuis ma plus tendre enfance et que ne couvre pas complètement le sifflement de mon acouphène.
Juillet 1991. Désormais, entre le monde et moi, l'obstacle de mon corps. Je revois l'oncle Georges dans ses dernières années, assis dans son fauteuil à parler de tout et de rien, le regard pétillant, les mains comme deux libellules. Le même exactement qu'à 40 ou 50 ans. Mais dès qu'il se levait, on entendait craquer ses genoux, ses hanches, son dos. Assis, un jeune homme. Debout, un vieillard, voûté, grimaçant de douleur, d'où émanait sur la fin une discrète odeur d'urine, et qui a gardé jusqu'au bout une très gracieuse aptitude à prendre les choses à la légère. Avec l'âge, disait-il, citant je ne sais plus qui, les raideurs se déplacent.
Avec Mona, lorsque le narrateur avait 26 ans, a été un coup de foudre. Si les années ont passé et les corps ont vieilli, il manifeste toujours pour sa femme son admiration. D'où me vient ce sentiment de permanence, pourtant ? Tout se dégrade, mais demeure cette constante joie d'être. Je pensais à cela hier, en regardant Mona marcher devant moi. Mona est son port de reine, comme dit Tigeau. Depuis 40 ans que je marche derrière elle, son corps s'est alourdi, bien sûr, a perdu de son élasticité. Mais, comment dire, il s'est alourdi autour de sa démarche, qui, elle, n'a jamais changé. Et j'éprouve toujours le même plaisir à regarder Mona marcher. Mona est sa démarche.
Décembre 1996, 73 ans, 2 mois. On parle beaucoup de maladies autour de moi. Toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'es jamais malade. Une des vertus de ce journal aurait été de préserver tout un chacun des états de mon corps. Mon entourage y a gagné en bonne humeur.
Baroudeuse, garçon manqué, Fanche participait aux mêmes actions de résistance en 1945. Il évoque ses retrouvailles avec elle plus de 60 ans après. Cet après-midi-là, donc, au jardin du Luxembourg, assis dans un de ces fauteuils impossibles, mon journal ouvert par l'habitude, mon regard s'est arrimé à une promeneuse que j'ai instantanément reconnue. Brusque présence de mon passé. Une femme de mon âge, à la démarche pesante et pourtant déterminée, la tête rentrée dans les épaules, un bloc féminin qui tenait bougrement au sol. Le genre que rien n'arrête. Cette silhouette m'était on ne peut plus familière. Elle datait d'hier. Ne la voyant que de dos, je l'ai pourtant appelée par son nom. « Fanche !» Elle s'est retournée, cigarette au bec, a posé sur moi un regard sans surprise. Je l'ai suivie. J'ai mis mes dossiers à sa disposition, j'ai tenu ses fiches à jour, j'ai affiné ses enquêtes, j'ai porté son cartable. Et pendant ces dernières années, je me suis inquiété de son corps plus que du mien. En ces temps où l'hygiène de vie est l'hymne unique, où la seule bannière claquant sur nos têtes est celle du principe de précaution, Fanche fumait comme 4, buvait comme 12, se nourrissait au lance-pierre, travaillait au point de tomber endormie la tête sur son bureau. Je lui disais « Attention, Fanche, ralentis, à ce rythme, tu ne tiendras pas 100 ans ». « Mais non, mon pétard, s'il faut finir, que ce soit à toute allure, au plus fort de la pente. Commencer piano, piano, d'accord, bien réfléchir à nos débuts, c'est entendu, mais finir à toute pompe, sans ménager nos carcasses. Le principe d'accélération, tout est là. Nous ne sommes pas des projectiles à chute molle, nous sommes des boules de conscience lancées sur la pente toujours plus raide de notre vie. » Que nos carcasses suivent ou pas, c'est leur affaire.
...86 ans... ...9 mois... ...16 jours... ...lundi 26 juillet 2010... Nous sommes jusqu'au bout l'enfant de notre corps, un enfant déconcerté.
Vous venez
venez d'entendre des extraits de « Journal d'un corps » de Daniel Pénac, lu par Yvan et Dominique. Le livre a paru aux éditions Gallimard en 2012. Les pauses musicales sont extraites du disque « Astor Piazzolla Tango » par le New Danish Saxophone Quartet.
À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Better than one.